Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers amis auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages. Pour évoquer un personnage que l'histoire a ancré dans toutes les mémoires, sans toutefois mettre suffisamment en lumière probablement toutes les facettes d'un homme qui était à l'évidence très en avance sur son temps. Alors ce personnage, cet homme, c'est Vauban, à la fois l'un des conseillers les plus proches de Louis XIV et l'un des plus éloignés de sa conception absolutiste du pouvoir royal. Maréchal de France, commissaire général des fortifications, Vauban est surtout connu comme le bâtisseur de génie et le militaire de haut rang capable aussi bien de défendre les frontières de la France en y installant des forteresses imprenables que d'attaquer les forteresses ennemies grâce à sa connaissance de leurs faiblesses. Ce qu'on sait moins de lui, mais ce qu'aujourd'hui on redécouvre comme d'une brûlante actualité, c'est son côté rebelle. Un rebelle resté toujours fidèle à son roi, mais qui ne lui a jamais caché son opposition farouche à certaines dérives de la monarchie. En faisant un véritable combat fondé sur des convictions inébranlables, aussi bien contre la révocation de l'édit de Nantes que contre le système fiscal injuste qui régentait la France de l'époque. Ce combat lui valut à la fin de sa vie en 1707 la disgrâce royale et le silence gêné des puissants du royaume au moment d'être mis en terre. Seule l'Académie des sciences, dont il était membre honoraire depuis 1699, brisa ce silence et lui rendit hommage par la voix de son secrétaire perpétuel, Bernard de Fontenelle, ce qui prouve bien, s'il en était besoin, la très ancienne tradition d'indépendance d'une institution née au temps du roi Soleil. Alors pour nous parler aujourd'hui de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir Alain Monod, auteur d'un très bel ouvrage consacré à Vauban, Vauban ou la mauvaise conscience du roi, tout est dit dans le titre, publié aux éditions Rive-Neuve, qui nous est cher à tous les deux, préfacé par Pierre Jox, et qui a reçu en 2009 le prix Guizot décerné par l'Académie française à un ouvrage d'histoire. Alain Monod, bonjour.
Bonjour.
Je devrais dire Maître Alain Monod, puisque vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Je réserverai ce titre aux membres de l'Académie française.
Mais vous êtes aussi historien de formation, ce qui vous amène aujourd'hui à plaider pour une cause que vous portez en vous depuis longtemps, et surtout, comme vous le racontez dans l'avant-propos de votre livre, depuis ce jour où, à l'âge de 12 ans, dans votre Lauragais familial, vous êtes interpellé par l'animatrice d'une école du dimanche qui vous parle du dernier ouvrage rebelle de Vauban, son projet de dîme royale, dont sa famille avait conservé précieusement un exemplaire, lequel aurait dû, comme tous les autres, être brûlé sur ordre du roi en 1707, puisqu'il remettait en cause tout le système fiscal de l'époque. Ce que je voudrais aussi souligner, vous concernant, Alain Monod, si vous me le permettez, c'est pour moi ce qu'évoque votre nom, Monod. Pour tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se sont intéressés au protestantisme et à son histoire, ce qui a été mon cas à travers l'œuvre d'André Chanson, le nom Monod, pour moi, ça veut dire protestantisme. Vous êtes issu d'une famille qui a trempé ses racines dans la RPR, j'ai bien dit la RPR, la religion prétendument réformée, et en a retiré un esprit commun de résistance qui s'est manifesté de différentes manières, y compris sur les chemins du désert parcourus par Théodore Monod, votre oncle. Et cette marque familiale vous a naturellement conduit à vous passionner pour un personnage comme Vauban, qui n'était pas protestant, il s'appelait Sébastien le Prestre, donc le prêtre, n'est-ce pas qui n'était pas protestant, mais qui en avait certainement l'esprit, cet esprit de résistance que je revendique moi-même, je dois le dire, également, même en tant que catholique. Et donc, comme entrée en matière de notre entretien à la Monod, j'aimerais bien qu'avant de parler de Vauban, vous nous parliez un peu de vous-même, de vos racines, de votre Lauragais, de vos sources protestantes, de tout ce qui a nourri cette nécessité intérieure, c'en est bien une, je pense, qui vous a conduit à l'écriture de ce livre. Avant d'entendre l'historien et l'avocat, j'aimerais, si vous le voulez bien, entendre l'homme Alain Monod, et notamment, mais pas seulement, le Huguenot. Je vous en prie, Alain Monod.
Merci de cette présentation flatteuse, mais qui correspond, pour ce qui concerne en tous les cas mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents, à une réalité de vie. Je viens de perdre mon père Jean-Pierre Monod, qui était un résistant et pendant la dernière guerre mondiale, et qui a perdu une jambe à la fin de cette guerre. Mon grand-père aussi en 14-18. Et ces Monod se sont beaucoup battus pour l'indépendance du pays, avec, dans les périodes de paix, Dieu merci, une volonté de tolérance. En particulier, il y a eu un Gabriel Monod qui s'est beaucoup battu pour Dreyfus. Alors nous sommes une famille assez récente en France, nous n'avons pas participé à la RPR, c'est-à-dire à la religion prétendument réformée, puisque tous les Monod de France sont issus d'un même couple arrivé en France en 1808, le pasteur Jean Monod, qui s'est installé à l'Oratoire du Louvre, qui est une paroisse de tradition de protestantisme libéral, où les Monod se retrouvent volontiers. Voilà. Et donc, j'essaye, dans la limite de mes talents et de mes convictions, de perpétuer un petit peu ce sentiment, cette exigence de tolérance et d'ouverture que nous devons perpétuer face, en particulier, au pouvoir. Et vous avez évoqué Vauban, qui est, nous y reviendrons peut-être, mais ce commissaire général aux fortifications a été d'une indépendance extrême vis-à-vis de Louis XIV, et il était quasiment le seul de son temps à pouvoir lui dire son fait.
On va parler maintenant, approfondir un peu, si vous me permettez, le personnage Vauban. Et là, je vais m'adresser effectivement à l'historien. Et ce qui interpelle effectivement dans votre livre au départ, vous venez de l'évoquer, c'est un peu l'ambivalence du personnage Vauban. Et j'aimerais bien justement qu'on parle d'abord, avant d'aborder le contenu de ces diatribes, et j'aimerais bien qu'on parle de l'homme Vauban.
Alors...
Qui est constamment partagé entre son esprit rebelle et sa fidélité au roi soleil. Est-ce que cette fidélité est une fidélité à la personne du roi? Comment vous voyez ça?
Alors, quand vous dites ambivalence, le mot pourrait être, pour avoir une consonance un peu négative.
J'ai pas dit ambiguïté.
Ambivalence.
Oui.
Ambivalence. En réalité, si moi je prendrais volontiers la pièce de Monet, avec une face avec une forteresse, escarpe et contre-escarpe, et l'autre verso, une feuille de chêne et une feuille d'olivier. Voilà. Ça paraît effectivement un peu contradictoire. La vérité, c'est que Vauban a été très vite repéré par Mazarin d'abord, puis ensuite par Louis XIV, comme étant un ingénieur tout à fait remarquable, et qui, au-delà de ses talents de commissaire aux fortifications, était d'une parfaite loyauté et fidélité au roi. Il n'a jamais, à aucun moment, participé à une quelconque cabale, complot, était de près ou de loin parmi les frondeurs, sauf peut-être au début quand il était tout jeune, quand il avait à peine 18 ans, il était dans les armées de Condé. Bon. Mais c'est un homme loyal et Louis XIV le sait. Louis XIV sait qu'il peut compter sur lui. Et d'ailleurs, on dit qu'il est en avance sur son temps. Sur ce terrain-là, sa fidélité au roi doit être associée à sa fidélité à un système assez féodal, dont il ne conteste pas l'architecture. Il n'aura de cesse d'ailleurs de se construire ou reconstruire son château familial avec des douves à Bazoches, près d'en Bourgogne. Il n'aura de cesse de bien marier à la plus haute société de l'époque ses filles. Donc à ce titre, il est assez traditionnel. Et en tous les cas, il ne revendique aucune parcelle de pouvoir comme aurait pu le faire ou pouvaient le faire certains nobles de l'époque. Et parallèlement à cela, c'est un homme qui, sans aucun remords, ni scrupules, ni état d'âme, sans aucun état d'âme, s'adresse au roi pour lui dire ce qu'il pense. C'est un homme de la terre, un homme un peu rugueux,
un homme qui écrit de manière assez ferme, sans effet de style, et qui dit au roi ce qu'il pense sur un certain nombre de faits de société ou sur sa politique. Et donc, il a une grande liberté qui est à la mesure du crédit qu'il a auprès du roi. Et ce crédit, il faut bien voir qu'il était exceptionnel, parce qu'il était le premier des ingénieurs militaires en France, et il était redouté à l'extérieur par ses capacités à attaquer les places fortes. Donc le roi avait besoin de lui.
Précisément, dans la continuité un peu de ce que vous venez de dire, parlons-en un peu à propos de la défense des Huguenots. Dans le fameux mémoire pour le rappel des Huguenots, en lisant ce mémoire, en lisant ce que vous en dites, j'ai retrouvé ce que, selon ce terme que vous n'aimez pas trop, mais je peux comprendre qu'il soit ambigu, le terme ambivalence. Mais bon, j'en ai pas trouvé d'autre. Il y a, à mon avis, quand même une forme d'ambivalence dans la démarche. Mais finalement, quelle est, dans l'esprit de Vauban, la part de la raison politique? Je ne vais pas dire du calcul politique, hein, mais de la raison politique et celle de la morale humaniste. Parce que dans le mémoire pour le rappel des Huguenots, j'ai quand même noté que l'argumentaire politique, c'est-à-dire en fait les conséquences économiques de l'exil des protestants, l'inefficacité des fausses conversions, etc., l'argumentaire politique me paraît dominer dans le texte, y compris dans l'addition de 1692. Alors, quelle est la part entre la conviction de Vauban là-dedans et une sorte de contournement tactique permettant, selon lui, de convaincre le roi mieux que par une leçon de morale?
Alors, je dirais que le discours de Vauban est assez contorsionné, pour être un peu critique. D'abord parce que Vauban écrit, ne suit pas toujours des plans très rationnels dans ses démonstrations. Et il est contorsionné parce qu'il aborde un sujet complètement brûlant et très sulfureux. L'ensemble de l'intelligentsia de l'époque, hein, les Bossuet, La Fontaine, Madame de Sévigné et autres, Boileau, étant totalement en faveur d'une politique de répression et d'éradication des Huguenots en France. Au nom de la théorie développée et théorisée par Bossuet, un roi, une foi, une loi. Et l'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'autorité royale s'il n'y a pas une seule communauté religieuse derrière le roi. Le roi étant lui-même, disait Bossuet, le roi étant le représentant de Dieu sur terre, rien de moins. Face à cela, Vauban a un principe de réalisme. Il constate qu'en France, il y a, et depuis un siècle et demi, il y a une communauté protestante importante. Et il ne cesse de dire que si la communauté française, la collectivité française était entièrement catholique, évidemment, on pourrait appliquer cet adage un peu simple, mais qui était l'adage de l'époque. Il considère qu'il y a une communauté importante, et il commence par dire au roi, cette communauté, elle vous est fidèle, et vos prédécesseurs, Henri IV et Louis XIII, en ont tenu compte. Vos prédécesseurs ont mené une politique de tolérance et d'assimilation. Et il dit au roi, vous ne devez pas éradiquer, au nom de ce principe, un roi, une foi, une loi, éradiquer les protestants de l'Hexagone, parce que vous allez affaiblir la France. Donc il a d'abord cette préoccupation politique. Vous allez l'affaiblir sur le plan économique, parce que ces 200 000 protestants, ce sont des gens très actifs, des commerçants. Vous allez l'affaiblir dans l'armée. Et il a vu pas mal de ses sapeurs, il y tenait beaucoup, ses sapeurs, puisqu'il était ingénieur militaire protestant, quitter le territoire et les retrouver en face de lui, dans les fortifications qu'il attaquait. Vous allez l'affaiblir aussi sur le plan donc économique, sur le plan de l'homogénéité politique du pays derrière le roi. Hein. L'idée que ces sujets protestants qui sont fidèles au roi risquent de devenir hostiles au roi. Vous allez l'affaiblir sur le plan diplomatique parce que tous ces gens qui s'en vont partent au refuge, c'est-à-dire au-delà du Rhin, dans le Palatinat, en Hollande, dans les Pays-Bas, et vont renforcer la coalition protestante avec Guillaume d'Orange hostile au roi. Et finalement, il en vient, après moult réflexions, au sujet essentiel. Et je crois qu'il n'y est arrivé que sur le tard et avec une certaine prudence. Il commence par dire tout ce que fait l'Église catholique ou toute la répression que vous infligez aux protestants au nom de l'Église, les dragonnades, les galères, les pendaisons, toute cette répression déshonore l'Église catholique. Et vous ne pouvez pas manier le goupillon avec un sabre pour tenter de convaincre. Et cette répression est totalement inefficace. Ça, c'est son arrière conclusion. Et sa dernière conclusion, qui est très forte, c'est la liberté de conscience, le libre arbitre. Les sujets, vos sujets, messieurs, monsieur le messire, vos sujets, ont au fond d'eux-mêmes un libre arbitre que vous ne pourrez pas épuiser par la répression. Et c'est la raison pour laquelle, au début de mon essai, je rappelle ce texte qui est quand même très révolutionnaire en 1689, un siècle avant. Voilà ce qu'écrit Vauban. « Les rois sont bien maîtres des vices et des biens de leurs sujets, mais jamais de leurs opinions, parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance et Dieu seul les peut diriger comme il lui plaît. »
Quelle phrase ! C'est quand même extraordinaire d'entendre ça, sachant la date, 1689, c'est quand même étonnant. Et alors justement, le deuxième mémoire qu'il a opposé en quelque sorte au roi, le projet de dîme royale, repose encore plus sur une sorte de discours moral, peut-être plus que le mémoire pour le rappel des Huguenots. Peut-être parce que simplement Vauban est à la fin de sa vie et que parfois, quand on arrive à la fin de sa vie, eh bien, on a envie de davantage se rebeller en quelque sorte. Et donc, il y a dans le texte sur la dîme royale, de mon point de vue en le lisant, davantage d'équilibre entre l'argumentaire qui reste, l'argumentaire politique et financier, qui est quand même important, qui est là, et le discours moral qui dénonce la misère du peuple, une misère qu'il a constatée lui-même sur le terrain, et l'injustice fiscale qu'il a constatée. Et donc, moi, je me suis demandé, en lisant ça, si chez Vauban, il n'y avait pas, à la fin de sa vie, une espèce de prise de conscience de l'impossibilité de convaincre les puissants du royaume à l'époque par simplement la raison, et qu'il fallait donc davantage dénoncer plutôt que chercher à convaincre. Autrement dit, s'il avait survécu, s'il avait été plus jeune, est-ce que Vauban, finalement, ne serait pas devenu révolutionnaire ?
Vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure qu'il est mort disgracié. Je pense que le terme est un peu excessif. Il aurait pu être dans la disgrâce s'il avait continué son combat. Je dirais qu'il est mort dans le chagrin et opportunément. On pourra y revenir, mais... Je partage
son,
votre...
Son livre devait être brûlé.
Oui, je partage... Saisi, en tous les cas.
Saisi.
Je partage votre analyse selon laquelle, après avoir tenté de faire revenir le roi sur la question de la liberté de conscience, puisque à la fin, il a tenté de convaincre même Madame de Maintenon, qui est née d'Aubigné, et dont il pouvait espérer un soutien, mais le sujet, une fois de plus, était trop sulfuré, et cette Madame de Maintenon n'avait pas droit au chapitre sur des questions de cette nature. Il a abandonné en se disant « je n'y parviendrai pas ». En revanche, sur la dîme royale, le sujet était partagé par un certain nombre d'économistes et d'analystes. Et il savait par ailleurs qu'il avait le soutien, modéré certes, parce que politiquement, tous ses ministres étaient très prudents, mais du ministre des Finances qui s'appelait Chamillard. Et sa dîme royale, qui consistait donc à faire disparaître l'ensemble de ces impôts complètement archaïques qui dataient de la fin de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire de la fin du XVe siècle. Tous ces impôts, il souhaitait les faire disparaître au profit d'un dixième, la dîme, un dixième des revenus ou du patrimoine de chacun, depuis le plus modeste laboureur jusqu'au roi de France. Voilà. Alors, c'était évidemment révolutionnaire, mais... il a eu l'oreille du roi, si je puis dire, puisqu'il a obtenu plusieurs auditions destinées à la lecture de sa dîme royale. Son geste sacrilège a consisté à protester très vivement contre le fait qu'on lui disait « tout cela est très bien, tout cela est parfait, mais en ce moment, c'est la guerre et nous ne pouvons pas modifier fondamentalement les impôts et leur système de recouvrement. On verra plus tard. » Et chaque fois, il se heurtait à la même objection. Et il s'est dit, alors qu'il était à la fin de sa vie, il s'est dit « je ne peux pas laisser les choses en plan, Je ne peux pas laisser les choses en plan. Je vais aller plus loin et je vais imprimer ce que j'ai lu au roi. Et c'est là où l'on voit qu'une personne d'un certain âge, ayant une grande autorité, un grand commis de l'État, décide de transgresser la loi. C'était une transgression considérable.
Ah oui, et comment ?
Voilà, et donc sa dîme royale a fait l'objet d'un... C'est ce qui m'a intéressé en tant qu'avocat au Conseil d'État. Il a fait l'objet d'un premier arrêt du Conseil du roi le 14 février 1707 de condamnation, mais sans effet direct de saisie. Et Vauban s'en est réjoui, car cette condamnation a donné de la publicité à son ouvrage et a continué à diffuser amicalement, hein, puisque c'était imprimé, mais pas en librairie. Et le 14 mars suivant, nouveau Conseil du roi, et cette fois-ci, le lieutenant de police d'Argenson est chargé de saisir tous les ouvrages. Voyant la police arriver, hein, comme aujourd'hui, il cherche à planquer ses bouquins, hein, c'est le cas de dire, dans ses multiples placards de son hôtel particulier, et il est à ce moment la victime de ces pneumonies bronchiteuses dont il était victime souvent, mais très grave cette fois-ci. Il était déprimé et il est mort fin mars 1707.
Pour terminer, justement, Alain Monod, je voudrais, avec un petit clin d'œil, m'adresser maintenant à l'avocat, mais peut-être pas seulement à l'avocat. Supposons, enfin, peut-être un petit jeu, je ne sais pas, mais supposons que vous êtes l'avocat de Vauban et que vous plaidez pour lui devant le Conseil du roi. Alors évidemment, je sais bien que les droits de la défense à l'époque, ce n'était peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais quand même, supposons, vous êtes avocat de Vauban, vous plaidez pour lui. Et ce que je voudrais savoir, c'est, en plaidant pour lui, est-ce que vous allez plaider pour le génie des fortifications ? Vous allez faire ce que fait un avocat, défendre du mieux possible son client, ce génie des fortifications qui a si bien servi son roi ? Ou alors, est-ce que vous allez être tenté par un discours par une plaidoirie plus politique, et vous en prendre éventuellement même au roi lui-même et à ses erreurs politiques et à son absolutisme. Alors, autrement dit, avocat ou défenseur d'une cause politique, je ne sais pas, il y a peut-être un choix à faire. Et finalement, selon le choix que vous allez faire, que j'imagine, est-ce que votre livre, finalement, n'est pas le plaidoyer d'un homme qui tire du passé une leçon qui est très actuelle et qui s'adresse en fait aux acteurs contemporains de la politique. C'est un peu ce que dit Pierre Joxe.
Absolument. Je plaiderai d'abord l'appui considérable que le commissaire général des fortifications a donné au roi. Et je lui dirai, sire, si Vauban n'avait pas été là dans cette guerre qui est une guerre de place forte, le territoire aurait été envahi. Si je ne vous avais pas convaincu de ce que, je n'y suis pas toujours arrivé d'ailleurs, de ce que l'Hexagone doit être entouré d'une ceinture de fer, avec des fortifications qui interdisent aux Espagnols, Italiens, Allemands et Hollandais, Flamands, d'envahir le territoire, je ne plaiderais pas devant vous car vous ne seriez plus roi. Et donc je vous ai apporté... Mon client, Sébastien Leprestre de Vauban, vous a apporté une aide considérable. Vous auriez dû davantage l'entendre sur d'autres sujets qui n'étaient pas de sa compétence technique, mais qui étaient de la raison et qui anticipaient sur un certain nombre d'exigences. D'abord, vous avez trop aimé la guerre et vous le direz sur votre lit de mort. Et je ne peux que citer le message que Vauban me laisse à vous. Sire, voici ce qu'il vous dit. La guerre a pour père l'intérêt, pour mère l'ambition et pour proche parent toutes les passions qui nous induisent au mal. Elle apparut en ce monde aussitôt que les premiers hommes. Elle y prit naissance avec eux et comme eux, elle s'empara de toutes les parties habitables de cet univers dont elle fit son héritage et dont la jouissance duquel elle s'est maintenue et se maintiendra tant qu'il y aura des hommes sur la terre avec un pouvoir despotique sur la vie et les biens de chacun.
Alors voilà. Là, le roi se tait.
Voilà ce que je vous dis, sire, de la part de Vauban. Je dois vous dire aussi que vous ne vous êtes pas suffisamment intéressé au menu peuple qui est la force de la nation.
Voilà le message que m'envoie Vauban, vous dire. Je me sens obligé d'honneur et de conscience de représenter à Sa Majesté qu'il m'a paru que de tout temps, on n'avait pas eu assez d'égards en France pour le menu peuple et qu'on en avait fait trop peu de cas. Aussi, c'est la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume. C'est elle, cependant, qui est la plus considérable par son nombre et par les services réels et effectifs qu'elle lui rend. Car c'est elle qui porte toutes les charges, qui a toujours le plus souffert et qui souffre encore le plus. Et vous avez raté, fin de citation, sire, et vous avez raté l'occasion d'une réforme fiscale qui se fera tôt ou tard. Et je crains qu'elle ne se fasse dans le sang un peu plus tard. Voilà ce que je dirais à Louis XIV au nom de Vauban.
Et si je suis roi de France en 2009, que me dites-vous ?
Je vous dirais que l'égalité et la justice fiscale est une des clés de la cohésion sociale, de la solidarité et du dynamisme d'une nation. Et qu'on ne peut pas créer des distorsions de fortune telles qu'il n'y a plus de cohésion ou il n'y a pas de cohésion sociale. Et je le dis en termes d'efficacité, mais aussi en termes de solidarité, car Vauban avait toujours ce double discours, qui n'était pas un double langage, d'efficacité et d'humanité. Et il estimait qu'une justice inefficace était une justice en même temps profondément inégalitaire.
Quelle actualité ! Merci.
Merci
beaucoup Alain Monod pour cette plaidoirie extrêmement convaincante et pour la passion qui vous anime. Merci beaucoup.